le service protestant. Une émission de la Fédération protestante de France.
Bonjour, vous êtes bien sur France Culture et comme chaque dimanche à 8h30, le service protestant pour vous accompagner jusqu'à 9h avec ce matin le pasteur Robert Héris de la Communion des Églises de l'espace francophone à Perpignan. Bonjour Robert Héris, ce matin vous allez nous raconter l'histoire d'une rencontre pas comme les autres, une rencontre qui révèle aussi des différences, notamment au niveau des croyances. Et puis il y a un parcours de vie plus ou moins chaotique. Alors vous qui êtes pasteur à Perpignan, mais aussi aumônier aux prisons, avant d'entrer dans le vif du sujet, pourriez-vous nous dire un mot de ce ministère un peu particulier où justement, il me semble que la diversité, les blessures de l'existence et les rencontres sont précisément le quotidien.
Oui, alors bonjour à toutes et à tous, et merci beaucoup Jean-Luc Gadreau de me permettre en introduction de dire quelques mots sur le ministère d'aumônier en prison. Celui-ci est effectivement un engagement particulier, plein de surprises, mais qui peut être aussi parfois éprouvant, compte tenu des profils si divers que l'aumônier va rencontrer. Dans votre question, vous parliez justement de diversité. Cela s'applique bien sûr aux personnes, mais aussi aux actes commis qui vont du simple délit jusqu'au crime. Assurément, l'aumônier aura affaire à des gens blessés qui, pour certains, comme dans un cercle infernal, auront à leur tour blessé les autres. Vous parliez aussi de rencontres et je vous confirme que certaines d'entre elles peuvent être très étonnantes. Lorsque l'évangile de Jésus-Christ est accueilli par un détenu, nous avons la joie d'assister à de belles transformations. Il y a peu, j'avais demandé aux assistants à notre culte en prison de composer un psaume pour parler de leur relation personnelle avec le Seigneur. Je vais vous le lire et vous comprendrez pourquoi je parle de rencontres étonnantes.
Alors, on vous écoute.
Alors, voici ce qui a été composé par un détenu qui a une longue peine. Il dit ceci: Père, Seigneur, toi qui es le Créateur, toi qui es la source de l'amour, je te prierai jusqu'au jour de mon départ. Mon Dieu, tu seras là à m'attendre le jour où je quitterai ce monde de souffrance. Mon Père, tu me prendras la main pour me conduire vers de beaux paysages. Après m'avoir créé à ton image, tu m'as vu m'éloigner loin de ta maison. Seul, je me suis perdu. J'ai ignoré ta parole. La douleur m'a rendu fou. Devenu le mauvais fils d'un bon père, je suis revenu vers toi. Tu connais toute ma faute, tu sais ma repentance, tu as vu ma foi, tu m'as pardonné, purifié. Je ressens ta présence, ton amour me sauve. Quand les cruels m'attaquaient, tu les as désarmés. Ta main protectrice est au-dessus de moi et des miens. Tu me sauves, tu me portes. Mes pieds ne touchent plus la boue. Avec foi, j'attendrai le moment où tu m'accueilleras dans ton royaume. Toi, le Sauveur, tu es mon Dieu. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Père, donne à mon corps la patience qui me manque, à mon esprit la pureté qu'il a perdue. Mon Dieu, protège aussi toute ma descendance. Garde mes enfants dans ton amour. Seigneur, entends mes prières. Guide-les sur ton chemin, celui de ton amour. Mon Dieu. Amen.
Merci beaucoup Robert Héris pour ces quelques mots donc sur le ministère d'aumônier aux prisons et puis donc la lecture de ce poème qui devient une prière, qui devient une forme de psaume, écrit donc, je le rappelle, par l'un des détenus que vous accompagnez. Maintenant, nous allons rentrer donc dans ce que vous voulez partager avec nous. Et puis, je vous laisse donc nous raconter cette histoire qui vient s'ancrer dans un texte de l'Évangile.
Oui, effectivement, donc pour notre réflexion biblique ce matin, j'ai choisi une histoire que nous rapporte l'apôtre Jean dans son Évangile. Il s'agit de la rencontre de Jésus au puits de Jacob avec une femme samaritaine. Écoutons donc la lecture de ce texte.
Alors nous sommes dans l'Évangile de Jean au chapitre 2 et nous lisons à partir du verset 4. Or, il fallait que Jésus traverse la Samarie. Il arrive près d'une ville de la Samarie appelée Sichar, qui est proche de la parcelle de terrain que Jacob avait donnée à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assit tout simplement au bord du puits. Il était environ midi. Une femme de la Samarie vient puiser de l'eau, et Jésus s'adressa à elle. « Donne-moi à boire !» Ses disciples étaient allés en ville acheter de quoi manger. La femme samaritaine dit à Jésus « Mais tu es juif, comment oses-tu me demander à boire à moi ?» Une samaritaine. En effet, les juifs n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus continua. Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau, et il t'aurait donné de l'eau vive. La femme répliqua. Seigneur, tu n'as pas de seau et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre ancêtre Jacob qui nous a donné ce puits et qui a lui-même bu de son eau ainsi que ses fils et ses troupeaux ? Jésus lui répondit, « Toute personne qui boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de venir puiser de l'eau ici. » Jésus lui dit, « « Va, appelle ton mari et reviens ici. » La femme lui répondit, « Je n'ai pas de mari. » Et Jésus ajouta, « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari, car tu as eu 5 maris et l'homme avec lequel tu vis maintenant n'est pas ton mari. Tu as donc dit vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres samaritains ont adoré Dieu sur cette montagne, mais vous, les Juifs, vous dites que l'endroit où l'on doit adorer est à Jérusalem. » « Crois-moi, continua Jésus, l'heure vient où vous n'adorerez le Père ni sur cette montagne, ni même à Jérusalem. Vous, vous adorez Dieu sans le connaître. Nous, nous l'adorons et nous le connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est même déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit qui conduit à la vérité. Car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l'adorent le fassent par l'Esprit qui conduit à la vérité. » La femme lui dit, « Je sais que le Messie, c'est-à-dire le Christ, va venir. Quand il viendra, il nous enseignera toutes choses. » Jésus lui répondit, « Je le suis, moi qui te parle. »
Ce texte met en présence Jésus et cette femme samaritaine sans qu'il y ait un seul témoin de cette conversation, pourtant pleine de détails intéressants. Nous pouvons donc facilement déduire que Jean a dû obtenir de Jésus lui-même l'ensemble des aspects de cette rencontre. Nous savons que Jean était l'ami intime de Jésus. Lors des repas qu'on prenait sur le coude gauche à demi allongé, il était celui qui était le plus proche du Seigneur. L'apôtre Jean peut donc intégrer cette circonstance dans la rédaction de son évangile et nous nous en réjouissons car c'est un texte remarquable. La déclaration finale de Jésus est non seulement touchante pour la Samaritaine, mais 2000 ans après, elle vient finalement questionner notre foi. En effet, à la déclaration de la femme que nous trouvons dans Jean 2, 25, « Je sais que le Messie, c'est-à-dire le Christ, va venir. Quand il viendra, il nous enseignera toutes choses. » Jésus répond sans détour, « Je le suis, moi qui te parle. » Jésus savait très bien, par sa culture religieuse, qu'une tension permanente, concernant notamment la religion, existait entre les Juifs et les Samaritains. D'ailleurs, dans le texte, la femme va vite aborder ce sujet. Au verset 20, elle dit « Nos ancêtres samaritains ont adoré Dieu sur cette montagne, mais vous, les Juifs, vous dites que l'endroit où l'on doit adorer Dieu est à Jérusalem. » Effectivement, les Samaritains rendaient leur culte à Dieu sur le mont Garizim, tandis que les Juifs célébraient leur culte au temple de Jérusalem. Au fond, rien n'a changé. Il existe encore aujourd'hui une infinité de manières d'adorer Dieu. Dans le groupe le plus important des croyants au niveau mondial, les chrétiens sont environ 2 milliards 280 millions. À part les grands courants que sont le catholicisme, l'orthodoxie et le protestantisme, même à l'intérieur d'entre eux, il existe environ 33 000 dénominations différentes. Ajoutons à la foi chrétienne la foi juive, la foi musulmane, les bouddhistes, les hindous qui adorent Dieu ou leurs ancêtres, en tout cas qui professent une forme de foi. Nous avons là beaucoup de monde et tant de manières différentes d'adorer Dieu. Un sondage assez récent montrait qu'environ 84% de la population mondiale se disait attachée à un groupe religieux. Alors bien sûr, comme Français, nous savons que presque la moitié des citoyens de notre pays se déclarent athées ou agnostiques. Voyons le verre à moitié plein. Plus de la moitié des Français croient en Dieu. Mais à quel degré? Pensent-ils comme la Samaritaine ou confessent-ils la messianité de Jésus? Ont-ils simplement hérité d'une tradition qu'ils font perdurer par une pratique plus ou moins suivie, ou bien ont-ils fait une rencontre avec Jésus qu'ils ont reconnu comme le Messie, c'est-à-dire l'envoyé de Dieu, et plus que cela, Dieu lui-même, Dieu le Fils? C'est finalement la question que nous pose ce texte. Êtes-vous athée, agnostique, déiste, théiste? La parole a le pouvoir de nous amener dans une compréhension de la nature profonde de Jésus, et ceci, tout simplement, pour nous conduire au salut. Puisque nous parlons de parole, et je mets ce mot avec un P majuscule, hein, remémorons-nous ce que l'apôtre Jean déclare dès l'introduction de son évangile.
Dans l'évangile de Jean au chapitre 1 et au verset 1, donc, au commencement de toute chose, la parole existait. La parole était avec Dieu, elle était Dieu. Elle était donc avec Dieu au commencement. Tout est venu à l'existence par elle, et rien de ce qui est venu à l'existence n'est advenu sans elle.
Jean voit en Jésus le Verbe, la parole. Je remets ces deux mots, Verbe et parole, avec une majuscule. C'est-à-dire le Logos. Outre ce passage du prologue, Jean désignera Jésus comme le Logos dans deux autres textes du Nouveau Testament.
Premier épître de Jean, chapitre 1 et au verset 1, « La parole qui donne la vie existe depuis le commencement. Nous l'avons entendue, nous l'avons vue de nos propres yeux, nous l'avons observée et nos mains l'ont touchée. » Et dans Apocalypse au chapitre 19, verset 13, « Il est vêtu d'un manteau couvert de sang. Il s'appelle la parole de Dieu. »
Thank you. notion du logos vient du monde grec. Déjà au VIe siècle avant Jésus-Christ, le philosophe Héraclite en parlait comme d'un principe qu'aucun homme n'avait la capacité de comprendre. Plus tard, le philosophe juif Philon d'Alexandrie, contemporain de Jésus, emploiera plus de 1200 fois ce terme dans ses œuvres pour désigner le logos comme une émanation de Dieu, l'instrument de sa création. Le logos, c'est le principe divin qui pénètre et gouverne le cosmos. La nouveauté qu'apporte le prologue de l'apôtre Jean est d'identifier le logos avec une personne historique et concrète, c'est-à-dire Jésus de Nazareth. Plus tard, saint Augustin, au IVe siècle, admettait avoir lu chez les auteurs anciens que le Verbe est né de Dieu, mais rajoute saint Augustin que le Verbe s'est fait chair, voilà ce que je n'y ai jamais lu. Ainsi Jean ne considère pas que Jésus soit un prophète tel que l'ont vu les générations qui nous ont précédés, ou que le voient certaines personnes encore à ce jour. Pour Jean, Jésus n'est pas non plus un thaumaturge, un homme de bien ou un de ces rabbis dont le peuple d'Israël était largement pourvu. Sa proximité avec le Christ l'a convaincu qu'il était ce logos dont les anciens parlaient. La communauté juive hellénistique avait été largement influencée par la pensée de Philon. Et les idées de ce philosophe étaient très prisées à l'époque de Jean. L'apôtre Jean franchit donc un pas décisif. Pour lui, c'est certain, Jésus est le Verbe de Dieu. Et Jean vit cette révélation avec une certaine douleur, car la parole est rejetée par ses contemporains. Quel drame pour lui! Écoutons ce qu'il en dit.
La parole était dans le monde et le monde est venu à l'existence par elle. Et pourtant le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue dans son propre pays, mais les siens ne l'ont pas accueillie. Cependant, à tous ceux qui l'ont reçue et qui croient en elle, elle a permis de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle, par une volonté humaine. C'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie.
Chez Jean, dans ce texte, une souffrance s'exprime, celle du rejet du Christ par les gens de sa génération. Mais s'exprime aussi une bonne nouvelle qui est encore d'actualité pour chacun.
Cependant, à tous ceux qui l'ont reçue et qui croient en elle, elle a permis de devenir enfant de Dieu.
Il suffirait donc de recevoir le Logos et de croire en lui pour devenir enfant de Dieu ? Oui, c'est bien ce que Jean, l'intime du Christ, déclare et c'est bien ce que j'ai la joie d'affirmer à vous toutes et à vous tous.
Sois ma lumière.
Vous écoutez le service protestant sur France Culture avec ce matin le pasteur Robert Héris qui nous vient de Perpignan. Vous venez de nous parler de croire, de recevoir. Mais qu'est-ce que Jésus dit de lui-même pour que Jean soit à tel point convaincu, comme il le dit, que c'est bien le Logos que lui et ses amis ont vu de leurs propres yeux, qu'ils l'ont observé et que leurs mains ont touché?
Eh bien, Jésus n'a rien caché du caractère central de sa personne comme parole faite chair. Dans le texte qui suit, une nouvelle dimension s'ajoute. Dans Jean, chapitre 5, verset 39, voici ce que dit Jésus. « Vous étudiez avec soin les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Or, ce sont elles qui témoignent à mon sujet. » Jésus, celui qui s'invite à être le centre de la foi, déclare ici qu'il est le centre des Écritures. Les Juifs avaient pour fondement de leur foi ce que nous appelons aujourd'hui le Tanakh, c'est-à-dire le Premier Testament, ces 39 livres qui constituent la première partie de nos Bibles chrétiennes. Jésus déclare à ces hommes que toutes les Écritures sont un témoignage en sa faveur. On peut lire la Bible avec différentes perspectives, on peut aimer sa poésie, ses histoires, sa cosmologie, ses textes de sagesse. Certains y voient des mythes fondateurs, des récits intéressants. Jésus, lui, dit que les Écritures témoignent de lui. La théologie chrétienne, dès l'origine, a effectivement adopté cette perspective en identifiant le Christ dans les Écritures, dans des textes désormais célèbres, qui s'applique magnifiquement à la personne et à l'œuvre du Christ. Pensons simplement au chapitre 53 du livre du prophète Ésaïe, qui décrit le Seigneur souffrant, qui ira jusqu'au calvaire pour prendre sur lui le châtiment de nos péchés. Je vous propose d'écouter un extrait de ce texte.
« Car devant le Seigneur, le serviteur avait grandi comme une simple pousse, comme une pauvre plante qui sort d'un sol desséché. » Il n'avait ni l'allure ni le genre de beauté qui attire les regards. Il était trop effacé pour se faire remarquer. Il était celui qu'on méprise, celui qu'on ignore, la victime, le souffre-douleur. Nous l'avons méprisé, nous l'avons compté pour rien, comme quelqu'un qu'on n'ose pas regarder.
Jésus est la vraie clé de lecture du Premier Testament. Écoutons la suite.
Or, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Mais nous pensions que c'était Dieu qu'il punissait ainsi, qui le frappait et l'humiliait. Pourtant, c'est à cause de nos crimes qu'il était blessé, c'est à cause de nos fautes qu'il était accablé. Il a subi notre punition et nous sommes acquittés. Et par les coups qu'il a reçus, nous sommes guéris. Nous errions tous, ça et là, comme un troupeau éparpillé, c'était chacun pour soi. Mais le Seigneur, lui, a fait subir les conséquences de nos fautes à tous. Il s'est laissé maltraiter et humilier, sans rien dire, comme un agneau que l'on mène à l'abattoir, comme une brebis devant ceux qui la tondent. Il n'a pas ouvert la bouche.
Comment ne pas penser aux paroles de Jean-Baptiste qui, en voyant Jésus s'approcher pour se faire baptiser, dit à ses disciples « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Voilà donc le Christ, le Messie que nous annoncent les Écritures et qui devrait être le centre de la foi que Dieu attend. Comme notre Samaritaine, dont nous avons entendu l'histoire au début de ce message, nous sommes invités à faire de lui notre clé de lecture de notre propre existence. Tout vient de lui. C'est lui qui a tout créé. C'est lui qui, dans sa propre chair, a porté nos souffrances. C'est lui qui a accepté que le châtiment lui tombe dessus et qu'il ne nous atteigne pas. Si nous vivons déjà cette expérience du Christ comme centre de notre foi, réjouissons-nous aujourd'hui. C'est un privilège, n'en doutons pas. Si, en revanche, nous n'avons pas encore établi avec lui cette relation de confiance et d'abandon, alors, ce matin, recevons-le et croyons-le. L'apôtre Pierre a si bien exprimé cet appel dans les mots qu'il adresse aux dirigeants, aux anciens et aux spécialistes des Écritures, ainsi qu'à Anne le grand prêtre et à Caïphe dans le livre des Actes, au chapitre 4 et au verset 12. Pierre déclare le salut se trouve uniquement en lui, car nulle part dans le monde il n'a été donné aux êtres humains quelqu'un d'autre par qui nous pourrions être sauvés. Que le Seigneur, mes amis, vous accorde une belle semaine et vous bénisse abondamment. Amen.
Eh bien, nous voici arrivés au terme de ce service protestant proposé par la Fédération protestante de France, présenté par Jean-Luc Gadreau, réalisé par Delphine Lemaire, et avec aujourd'hui Robert Herris, pasteur de la communion des églises de l'espace francophone à Perpignan. Vous pouvez nous écrire à Service Protestant, 47 rue de Clichy, 75 009 Paris, ou plus simplement encore par email à communication@fédérationprotestante.org. Pour écouter cette émission, rendez-vous sur le site de franceculture.fr, mais aussi protestant@.org, où vous pourrez aussi retrouver d'ailleurs le texte de l'émission du jour. Autre possibilité, enfin, en podcast, sur l'application de votre choix, sous l'intitulé « Service protestant ». Je vous souhaite une très très bonne journée à l'écoute de France Culture. C'est maintenant les informations et tout de suite après l'émission talmudique présentée par Marc-Alain Wachnin.